C'est électrique tout ça. Faut pas t'approcher.
On va commencer par la prière de refuge. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ouais, on va commencer par un petit temps de méditation. Et pour commencer, pour orienter notre esprit vers le Dharma, on peut commencer par réfléchir sur la notion d'impermanence, sur le fait que tout change tout le temps, à chaque instant. Il n'y a aucun état permanent. Même parler d'état permanent, c'est déjà trop. Parce que permanence, ça impliquerait l'idée d'une durée, mais en fait, tout est en transition constante. Il n'y a rien qui soit figé, ne serait-ce que une fraction de seconde, tout change tout le temps. Nos états d'âme aussi sont transitoires. Nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos humeurs. Aucun phénomène n'est stable, aucune situation. Et cette réflexion sur l'impermanence, l'intérêt c'est de voir qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de notre sort. Et donc, si ça ne dépend pas de nous, ça ne sert à rien de se débattre. Dans les choses qui ne dépendent pas de nous, le vieillissement du corps, par exemple, ça dépend pas de nous. La mort du corps, ça dépend pas de nous. Et beaucoup de choses encore. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se démobiliser. Il y a des choses qui dépendent de nous. Notamment notre rapport à nos émotions, à nos pensées, à nos humeurs, la façon dont on réagit à ça, ça dépend de nous. Et c'est tout le propos de la méditation, c'est tout le propos de l'entraînement de l'esprit. Apprendre à être OK avec ce qui se passe, apprendre à être OK avec les bonnes expériences, apprendre à être OK avec les mauvaises expériences, apprendre à être OK, ça veut dire apprendre à laisser venir et laisser partir. Quand il y a une bonne une chose positive qui nous arrive, une situation qu'on trouve bonne, apprendre à être OK, c'est être OK quand elle arrive. Et apprendre à être OK quand elle part, quand elle disparaît, quand elle se transforme. Laisser les choses venir, laisser les choses partir. Et pareil, quand il s'agit d'une situation difficile, pénible, apprendre à être OK, c'est apprendre à laisser venir et à laisser partir. Et donc la méditation, il ne s'agit pas de faire quelque chose, il s'agit simplement d'être. Se laisser être, tout simplement. On est conscient de ce qui se passe, on est conscient de ce qui s'élève dans l'esprit. Et on se permet de laisser les choses venir et de les laisser partir. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. On reste témoin de ce qui se passe, sans s'impliquer. Sans retenir les bonnes expériences, sans vouloir chasser ou bloquer les mauvaises expériences. On reste très relax, très détendu par rapport à tout ce qui s'élève. Et si on a besoin d'un point d'ancrage pour rester dans le moment présent, on peut porter notre attention sur la respiration. Sentir l'inspire, sentir l'expire. Et si au bout de quelques minutes, on se rend compte que on était parti ailleurs, en train de suivre une pensée relative au passé ou relative au futur, ou une préoccupation, tranquillement on revient sur la respiration. Alors dans notre quotidien, il y a des expériences positives qui arrivent, des situations positives qui arrivent, et puis il y a aussi des situations pénibles qui arrivent, et puis ça alterne, et puis ça change. Et là-dedans, le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est... Le dharma nous apprend comment être capable de gérer ces situations-là. Comment être capable de manager, de fonctionner quand les bonnes situations arrivent et quand les mauvaises situations arrivent. Mais aussi quand les bonnes situations arrivent. On n'insiste pas assez là-dessus, mais souvent parce que justement tout va bien, tout se passe bien, on laisse tomber la pratique. Et du coup, les choses peuvent empirer à ce moment-là. C'est un peu comme quelqu'un qui tombe malade, et puis on arrive à la convalescence, ça va mieux, et puis on arrête de prendre le traitement, et bah du coup, il y a rechute. Donc, c'est pour ça que dans les enseignements, on va aussi apprendre à travailler avec justement ces situations où tout semble aller pour le mieux. Et c'est ça, le dharma. Le dharma met l'accent pas tant sur le travail, sur les situations, mais sur comment on réagit par rapport aux bonnes situations et aux mauvaises situations. Et quelqu'un qui arrive à être OK, qui arrive à faire face à n'importe quelle situation de manière paisible, de manière lucide, avec du discernement, avec des moyens d'agir, voilà, on peut dire que cette personne pratique le dharma. On peut dire que cette personne, voilà, met en pratique le dharma. Et c'est... Et ultimement, quelqu'un qui réalise l'éveil, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est capable de gérer avec n'importe quelle situation. C'est ça qu'on parle. Quand on parle de libération, c'est quelqu'un qui est capable de se sentir totalement libre, totalement en paix, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Qu'il y ait un problème ou des centaines de problèmes, qu'il y ait un problème banal ou un problème particulier, qu'il y ait un petit problème ou un gros problème. C'est quelqu'un qui est capable de se libérer totalement de ça et de gérer avec ça. Et c'est le propos de la méditation. C'est on nous parle de l'éveil, on parle effectivement d'un état de libération où plus aucun problème n'est un problème. Et en même temps, on parle d'une voie progressive. Un entraînement, petit à petit. Et cet entraînement, il commence, pourquoi on parle de la méditation? Parce que justement, la méditation, c'est une sorte de petit laboratoire. Où on a ce projet d'être heureux, on a ce projet d'être en paix, de trouver la paix, et là on nous dit quelque chose de très simple, bah, on va commencer juste par s'asseoir. Et déjà rien que s'asseoir, ça devrait être simple, mais on se rend compte qu'au bout de 5 minutes, ça peut devenir un problème. Simplement de s'asseoir. Pourtant la consigne n'est pas compliquée. Mais on se rend compte que même ça, ben on voit que même si la situation est favorable, même si la pièce est bien chauffée, ben même si on est assis confortablement, qu'on a bien mangé, qu'on est reposé, qu'on n'a pas de préoccupations dans l'immédiat, et ben l'esprit, il se passe plein de choses. Il se passe rien, mais il se passe plein de choses dans l'esprit. Et là, ce qu'on nous dit, c'est d'apprendre à être OK, laisser venir, laisser partir. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Les expériences agréables, les expériences désagréables. On apprend à être OK, c'est-à-dire ne pas s'impliquer, ne pas essayer de retenir les bonnes expériences, ne pas essayer de bloquer les expériences, juste apprendre à ne pas se laisser perturber par ce qui arrive. C'est ça le propos, apprendre à ne pas se laisser perturber par tout ce qui peut arriver en termes de sensations, en termes de perceptions, en termes de pensées. Et on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Il s'agit de ne rien faire, mais ne rien faire, eh ben ça peut être compliqué. Et on continue de manager avec ça. Quand on est en méditation, même pour quelques minutes seulement, voilà, on a décidé qu'à telle heure on allait faire cette période de méditation. Le matin, par exemple, on se met en méditation et puis le colocataire commence à faire du bruit. Il met la radio, quelque chose comme ça. Donc on est là, bon, ah, je vais méditer, etc. Je vais être calme, je vais être zen. On se pose. Et puis il met la radio à fond. Ou alors il fait du bruit, etc. Ah, il m'empêche de méditer, etc. C'est précisément au moment où j'avais décidé de faire ma méditation, etc. Qu'est-ce qu'il a? Il le sait bien pourtant. Et ben, alors on se lève. Et puis on lui dit, nanana, c'est mon temps de méditation. Bon, admettons qu'on a affaire à un colocataire très compatissant qui décide de dire, bon, ok, il fait sa crise, je vais éteindre ma radio. Voilà, je vais enfin pouvoir méditer. Et du coup, on se remet sur le coussin. C'est parti. Et puis au bout d'une minute, ah, j'ai oublié d'acheter du lait. Ah, j'ai oublié d'acheter du lait. Qu'est-ce que je fais? J'ai oublié d'acheter du lait, ah, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter du lait. Comme ça, ce sera fait, j'aurai pu y penser et je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir enfin méditer. Okay. Acheter du lait, etc. Ah, c'est bon, je vais pouvoir enfin méditer. Je caricature, hein, je déroule.
C'est pas tant caricature que ça,
je trouve. Ça va vous y retrouver.
Ouais.
Et puis pareil, la pensée qui vient, ça peut être une pensée relative au boulot. On a rendez-vous, enfin voilà, dans quelques heures, on va rencontrer un collègue de travail, et puis cette pensée s'invite dans notre méditation. On n'avait pas prévu ça, et puis on se revoit, voilà, parler à notre collègue avec qui ça s'est pas passé bien la veille, et puis on est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais lui dire au boulot ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai trouvé qu'est-ce que je vais lui dire, je pourrai méditer. Donc voilà, on se sert de la méditation pour résoudre le problème mentalement. Et puis finalement, on ne médite jamais. Et le samsara, c'est ça. Le samsara, c'est ce fonctionnement-là qui pense que on serait heureux une fois que nos problèmes seront réglés. Et la vie est un petit peu comme ça. Si on regarde notre vie, en fait, on est sans arrêt dans un processus où on cherche tous à être heureux, très sincèrement. Et notamment, quand il y a un problème qui arrive, on pense que, on nourrit l'espoir qu'une fois que ce problème sera réglé, on pourra enfin être tranquille, on pourra enfin profiter de la vie. Mais ça se passe pas comme ça. Le plus souvent, quand un problème est réglé, effectivement, il y a peut-être un moment de répit. Mais très rapidement, il y a un autre problème qui arrive, voire deux, voire trois. Et du coup, on continue à courir. Et on va retrouver ça en méditation. Cette croyance que le bonheur, c'est une fois qu'on aura réglé tous nos problèmes. Quand on parle du samsara, donc on parle d'un état confus de notre esprit, un fonctionnement de l'esprit qui pense qu'il y a quelque chose comme étant le bonheur et quelque chose comme étant le malheur. Alors je vais prendre mon temps pour parler de ça. Il y a quelque chose comme étant le bonheur, il y a quelque chose comme étant le malheur. On assigne à des choses, on assigne des situations, le caractère de bonheur et de malheur, plaisir, souffrance. Et pourtant, il y a beaucoup de choses en fait qu'on étiquette comme étant le bonheur et qui ne le sont pas forcément pour quelqu'un d'autre. Par exemple, faire du sport, il y en a pour qui c'est vraiment une joie, c'est vraiment un bonheur et quelque chose d'essentiel dans leur vie, alors que d'autres, à côté, c'est la pire des tortures. Jamais. Sport, jamais. Il y en a, c'est la cuisine, il y en a qui adorent faire la cuisine, il y en a qui détestent faire la cuisine. Il y en a au centre, par exemple, quand on fait des plannings de tâches, qu'on appelle le lécor. Il y a des gens, par exemple, quand on parle de quelqu'un pour le repassage, il y en a qui lèvent les yeux au ciel. On l'a surtout pas moi, etc. Alors qu'il y en a, c'est tout de suite moi. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Même dans ce qu'on aime, voilà, dans ce qu'on apprécie, au niveau des plats, au niveau de la nourriture, au niveau de la musique. Il y en a qui vont dire, bah voilà, ça, c'est de la bonne musique, ça, truc. Il y en a qui vont dire, non, mais ça, c'est du bruit, c'est inaudible, c'est insupportable. Il y en a pour qui le comble du bonheur, c'est d'escalader l'Everest, et qui vont dépenser une énergie folle pour ça, dépenser de l'argent, s'entraîner durement pour atteindre cet objectif. Il y en a, leur part de ça, mais pourquoi tu fais ça, enfin, et donc, cette réflexion voilà, nous amène à essayer de comprendre que ce qu'on appelle comme bonheur et ce qu'on appelle comme étant le malheur, en fait, sont des perceptions de l'esprit. Dans le samsara, on est très dupe de nos perceptions. On assigne, on a beaucoup d'a priori sur les choses. On met les choses dans des cases. Ça, c'est chouette, ça, c'est pas chouette. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on met des étiquettes partout. Voilà, on a une grille de choses bien, de choses pas bien. Aller chez le garagiste, pas bien. Prendre un bon bain, bien. Aller au resto avec des amis, bien. Aller boire un verre avec des amis, bien. Aller voir son banquier, pas bien. Faire la vaisselle, faire les courses, pas bien. Et du coup, dans cette façon de cataloguer les expériences, quand elles nous arrivent, on a déjà des a priori très, très forts qui vont colorer l'expérience. Ce qui fait qu'on ne donne pas sa chance aux situations. On ne donne pas sa chance aux situations de nous surprendre. Si par exemple, voilà, c'est aller chez le garagiste, et que ça tombe en plus le jour de congé, déjà aller chez le garagiste, mais alors si ça tombe le jour de congé, déjà il y a un a priori très, très fort qui peut s'élever dans l'esprit, qu'on va passer un sale moment, que c'est en train de nous gâcher notre journée. Notre seul jour de congé va être pourri par cet événement-là, parce que voilà, j'avais prévu de faire la grasse mat, parce que j'avais prévu ceci, non, il faut que j'aille chez le garagiste, parce qu'il y a un problème de phare. Et du coup, cet événement, aller chez le garagiste, est donc mis dans la case, voilà, événement pénible, événement ennuyeux. Et donc, du coup, on n'a qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Donc on va le subir, cet événement. On va le subir du début jusqu'à la fin. Mais finalement, si on y regarde de plus près, l'événement aller chez le garagiste, c'est pas quelque chose. C'est une série, c'est tout un processus, c'est une série d'événements. Aller chez le garagiste, ça regroupe téléphoner au garage, prendre rendez-vous, ensuite prendre sa voiture pour se rendre chez le garagiste. Puis une fois qu'on y est, bah, c'est rentrer dans le garage, parler à une personne, lui expliquer notre problème, attendre, payer, et puis ensuite on part avec un problème en moins. Dans toute cette série d'événements, il est où l'événement pénible aller chez le garagiste? Est-ce qu'il se situe au moment où on appelle? Est-ce qu'il se situe au moment où on prend la voiture? Où on est dans la voiture? Est-ce qu'il se situe au moment où on parle à la personne? Si on prend un autre événement similaire, voilà, aller au restaurant, qu'on a mis dans la catégorie événement chouette. Quand on va au restaurant, bah c'est pareil, on prend notre téléphone, on réserve, et puis ensuite on prend la voiture pour se rendre au restaurant. Ensuite on arrive au restaurant, on explique notre problème, voilà, j'ai faim, je voudrais manger, je voudrais commander ça. Et puis on attend, et puis la personne nous apporte le plat, on mange, et puis voilà, on paye, on s'en va avec un problème en moins. Alors bien sûr, quand on va au restaurant, on a choisi d'aller au restaurant. Il y a une démarche, hein, c'est volontaire. Mais n'empêche que l'idée de la pratique du dharma se situe donc dans la transformation de l'esprit, c'est-à-dire transformer notre manière de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup insister sur le moment présent. Apprendre à être dans le moment présent. Apprendre à être en contact avec ce qui se passe réellement, de façon à ce que l'événement aller au garage soit vécu pour ce qu'il est, c'est-à-dire pas un a priori, c'est-à-dire ça va être chiant du début jusqu'à la fin, mais en fait permettre à la situation de nous surprendre, être dans le moment présent au moment où on va être dans la voiture. Être dans le moment présent, ça veut dire je laisse la situation me surprendre, c'est-à-dire je la laisse me... C'est un état de réceptivité. Sans a priori, je goûte à ça. Je la prends en considération. Aucune situation ne manque d'intérêt. Tout peut être... digne de considération, à la fois le fait d'être en voiture, c'est quelque chose qui est digne d'intérêt, ne serait-ce que parce que quand c'est vécu dans le moment présent, c'est vécu comme étant nouveau. C'est ça l'idée de moment présent, c'est apprendre à voir les choses toujours avec un œil neuf, avec un œil frais. Souvent justement l'esprit samsarique, eh ben il cristallise les choses. Voilà. C'est mis dans la catégorie ça va être pénible. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit fini, vivement que ça s'arrête. Et donc du coup on subit. Alors que dans le moment présent, on peut voir que tout est nouveau, tout est frais, et donc tout se laisse goûter, explorer. Le fait d'être dans la voiture, le fait d'aller au garage en face de nous, on a une personne, c'est un être humain, avec son histoire, avec ce qu'il est, et c'est digne de considération, c'est digne d'intérêt. Si on est dans le moment présent, eh bien en fait, on peut même faire une rencontre à ce moment-là. On pourrait même revenir de chez le garagiste en ayant interagi avec cette personne, et c'est pas tant qu'on a su rendre ça intéressant, c'est qu'on a laissé, par un regard neuf, par un regard frais, vierge d'a priori, et ben la situation a pu nous surprendre. Là où je pensais que ça allait être ennuyeux, etc., ben non, ça s'est montré intéressant. Parce qu'il n'y a pas d'attente par rapport à la situation. Pas d'attente que ce soit forcément formidable, pas d'attente que ce soit pénible. Et dans cet état d'esprit, on peut se rendre compte qu'il y a des situations qui étaient envisagées pénibles, mais en fait qui s'avèrent intéressantes. Et puis il y a aussi des situations qu'on avait envisagées agréables, aller au resto, aller voir les copains. Et en fait, ça s'est avéré pénible. Donc ça nous montre que ça dépend beaucoup de notre état d'esprit. Et c'est tout le propos de la pratique de la méditation. Apprendre à rester en contact avec ce qui se passe. Il y a une phrase d'un maître qui dit la façon dont je me sens, la façon dont ce que je ressens, le fait que je sois heureux ou malheureux, ne dépend pas de ce qui se passe, ça dépend de ce sur quoi mon esprit focalise. Ce sur quoi mon esprit porte son attention. La façon dont je me sens, heureux ou malheureux, ne dépend pas de ce qui se passe. Ça dépend de ce sur quoi se porte mon attention. C'est tout le propos de l'entraînement et c'est quelque chose qui n'est pas facile à intégrer comme ça, d'emblée. Mais la méditation, c'est ça, l'entraînement. Nous apprendre à avoir à rendre notre esprit très ouvert, à ne pas se laisser piéger, duper par nos perceptions, nos a priori, négatifs, positifs. Et de voir que on peut apprendre à apprécier ce qui se passe. C'est aussi très lié à l'impermanence. Quand on parle du fait que tout change tout le temps, beaucoup de gens pensent que la philosophie bouddhiste peut être très plombante à cause de ça. Le fait que tout change tout le temps, tout est impermanent. Alors que du point de vue bouddhiste, au contraire, voir que les choses sont impermanentes, c'est précisément pour ça qu'on peut les apprécier. Au Japon, il y a un art un concept qui s'appelle. C'est l'art en fait de voir ce qui est beau dans l'éphémère. Ça s'appelle pas wasabi. Parce que wasabi, je crois que c'est un truc qui pique. Mais c'est un truc comme ça. Ça vous dit rien?
Non.
Cet art. Donc en fait, c'est des gens qui font des œuvres d'art. Et du coup, éphémères. Et du coup, on apprécie leur beauté précisément parce qu'elles sont éphémères. Et c'est très lié, bien sûr, à la culture bouddhiste du pays. Et puis, il y a aussi cette notion dans le Watabi, je retrouverai de voir le beau dans l'imparfait. Ça aussi, c'est très, très bouddhiste. Alors, il y a des gens, en fait, ils font une boulette de papier, comme ça, puis ils la jettent. Et puis selon l'angle où on le regarde, bah parfois ça peut prendre la forme d'un visage. Et il y a quelque chose de très beau qui se dégage parce que justement, dans la perfection, on trouve la perfection. Bon, je sais plus pourquoi je vous parle de ça, mais... Oui, c'est pour le côté l'impermanence. L'impermanence, le fait que justement les choses changent tout le temps, il y a un peu cette philosophie du moment présent, on pourrait dire. Et en tant que bouddhiste, parfois certains maîtres nous invitent à vivre cette journée comme si c'était la dernière. Comme si on allait partir ce soir. Et nous inviter à regarder notre journée comme ça. Si par exemple on voit un ami ce soir, et que au moment de se quitter, on lui dit au revoir, si on sait que c'est peut-être la dernière fois qu'on la voit, et ben cette personne, on va d'autant plus l'apprécier. On va d'autant plus savourer ce moment-là, sachant que c'est peut-être le dernier. Donc toute la réflexion sur la permanence, ça n'a pas pour but de nous plomber, au contraire, ça a pour but de nous permettre d'apprécier chaque moment pour ce qu'il est. Et ça commence par déjà s'asseoir sur un coussin, et puis regarder ce qui se passe dans notre esprit, et apprendre à être à l'aise avec nous-mêmes. C'est une expérience qui peut paraître très bizarre de l'extérieur. On dit de nous asseoir et de rien faire. Mais en fait, ce qui nous paraît bizarre, au bout d'un moment, c'est de ne pas pouvoir être tranquille, simplement à être assis. De voir que, tout de suite au bout de 5-10 minutes, on a du mal à rester assis. Qu'est-ce qui nous empêche de rester assis? Et je crois qu'il y a un philosophe, il y a Pascal qui dit... Pascal le philosophe. il dit, en fait, le grand drame des humains, c'est de ne pas savoir rester tranquille dans une chambre. À rien faire dans une chambre. Quelque chose comme ça. C'est pas ça la situation, mais en gros, c'est très... c'est très similaire. Et donc, en méditation, il s'agit pas de chercher des expériences agréables. Il ne s'agit pas de créer une sorte de d'état particulier. Il s'agit d'apprendre à ne pas se laisser perturber par ce qui se passe. Qu'il y ait des sons, qu'il n'y ait pas de sons, qu'il y ait des pensées, qu'il n'y ait pas de pensées, qu'il y ait beaucoup de pensées, apprendre à être OK. S'autoriser, se permettre d'être OK malgré tout ce qui arrive ou tout ce qui n'arrive pas. Si on se sent bien, c'est OK. Si on ne se sent pas bien, c'est OK. Tout le propos de l'invitation, c'est de rester conscient, être. Être ce que je suis à ce moment-là, dans ce moment-là. Et bien sûr, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est pas facile. On n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on a vu là avec les étapes graduelles de la méditation du calme mental. C'est que comme c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est pas facile d'être naturel. C'est pas facile d'être tout simple. C'est pas facile d'être... Eh bien, on va utiliser une méthode qui va aller de la complication vers la simplicité. Comme on a des esprits compliqués, on donne des méthodes compliquées. Et ces méthodes, ensuite, on les simplifie. On va vers la simplification. De moins en moins d'efforts, de moins en moins de techniques, de moins en moins de... Parce que l'esprit de quelqu'un qui débute en méditation, eh ben, il a tendance à sauter sur tout ce qui bouge, donc à être distrait. C'est difficile de rester présent. Dès qu'il y a une pensée, on mouline. Et puis le temps de se rendre compte qu'on est en train de penser, ben, il y a déjà 10 minutes que se sont écoulées. C'est-à-dire qu'on pense, mais on ne sait pas qu'on est en train de penser. Alors attention, hein, la pensée n'est pas le problème. La pensée n'est pas la distraction. La distraction, c'est « je pense ». Mais je ne sais pas que je suis en train de penser. Si il peut y avoir des pensées dans l'esprit, il peut y avoir des commentaires dans l'esprit, etc. Si je sais que je suis en train de penser, tout en étant conscient de ce qui se passe, là, maintenant, aucun problème. C'est pas la distraction. On est conscient qu'il y a des pensées. Ou on est conscient qu'il n'y a pas de pensée aussi. Vous voyez, il y a des moments où il n'y a pas de pensée. Et on en est conscient. La distraction, c'est je pense, mais je ne sais pas que je suis en train de penser. Donc, voilà, je suis parti ailleurs. Ça peut être dans le futur, ça peut être dans le passé. Mais en tout cas, je suis plus là. Et donc, pour un débutant, on va donner à l'esprit un os à ronger. C'est vraiment ça. On lui donne quelque chose sur lequel l'esprit peut se porter. Et c'est pour ça que je vous avais expliqué la dernière fois la méditation sur la respiration et le décompte. Je vais la rappeler hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que c'est une méditation qui va nous être très utile. Même si au bout d'un moment on commence à être entraîné et que parfois on peut laisser tomber la technique, et c'est très bien, c'est même le top, on a besoin de temps en temps d'avoir un support solide. Donc la méditation, comme on l'avait expliqué, c'est d'abord d'avoir une posture correcte. Posture correcte, ça veut dire le dos bien droit. J'en avais parlé de la posture la dernière fois. Ouais, peut-être. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Une posture de méditation, quand on parle de posture de méditation, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, la posture, pour la méditation. Puisque la méditation, c'est d'être conscient, c'est d'observer l'esprit. On peut le faire assis, en marchant, coucher. Mais dans l'assise, il y a quelque chose qui nous ramène à la présence. Parce que assis, ça veut dire au repos. Et assis, ça veut dire on est là. C'est pas on est avachi. Déjà, la posture assise, elle parle d'elle-même. Je suis là. Voilà. Au repos, mais là. Et donc, tout le propos de la posture, c'est d'être détendu. Donc, une colonne vertébrale bien droite, mais autour duquel tout le corps peut se détendre. On peut laisser les muscles se relâcher, se détendre, et c'est un point qui est très important, la détente. Si on médite allongé, le problème, c'est qu'il y a la torpeur qui peut s'installer dans l'esprit. C'est-à-dire l'esprit qui est somnolent. Mais même assis, hein, je vous rassure, au monastère, on apprend à dormir assis. Enfin, moi, j'ai appris cette compétence à force de... de passer des années au monastère. Quand on invite de piquer un roupillon, eh ben, il suffit de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire... le point d'équilibre où la colonne vertébrale elle tient toute seule et donc du coup le corps est super détendu et à ce moment-là maintenant j'arrive à peu près à dormir sans que ça se remarque. Faut juste qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tousse violemment dans la salle parce que là ça me fait sursauter et là du coup je suis grillé. Mais a priori maintenant je peux dormir. Enfin ça ne sert pas à ça la posture, c'est juste pour vous dire que ça prouve qu'on peut être très détendu assis. Mais moi, maintenant, j'arrive à dormir n'importe où. Dans les transports, dans l'avion, j'arrive à dormir sans problème. Et puis vraiment, dos droit, hein, vraiment. Sauf quand il y a le plateau repas qui passe dans la... Alors là, Il faut pas que je le rate, celui-là. Oui, bonjour, madame. Et puis après, je me rendors. Bon, une fois que j'ai mon plateau repas... Ça, tu couperas au montage. Hein.
Non. Je suis dans la fête. Je m'en servirai.
Tout le propos de... Donc, vraiment, dans la posture, on insiste sur la détente. Mais, justement, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre l'agitation, c'est-à-dire l'esprit qui saute sur tout ce qui bouge, et la torpeur. Au début, on est vraiment... en proie à ces deux obstacles, parce que l'agitation de l'esprit, c'est notre fonctionnement ordinaire pour la plupart d'entre nous. On est habitué à avoir un mental qui fonctionne tout le temps. Et du coup, quand on commence à pratiquer la méditation ou des méthodes de relaxation, on se rend compte de ça, on se rend compte que notre tonus mental est très affaibli par cette agitation constante. Et en plus, quand ça s'arrête, quand justement on demande aux pratiquants de se détendre, qu'est-ce qui se passe? Boum! Torpeur. C'est-à-dire l'esprit est tellement fatigué que dès qu'il y a un moment d'apaisement, il dort. Donc ça va être difficile de trouver l'équilibre. Et je vous l'avais peut-être expliqué la dernière fois, la première expérience qu'on fait de la méditation du calme mental, c'est ce qu'on appelle... l'expérience du placement, c'est que l'esprit part dans tous les sens. Première expérience de méditation, l'esprit est incontrôlable. L'esprit part dans tous les sens. On parle d'un torrent, une cascade de pensées. Et il faut savoir que dans les textes, on dit que beaucoup de gens ne vont s'arrêter là, en fait, n'iront pas plus loin. Pour la plupart des gens qui commencent la méditation, on ne va pas aller plus loin, parce que soit on va se dire « je suis un cas désespéré », la méditation, c'est pas pour moi, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Soit on va se dire, c'est la méditation, ça va pas. Moi, depuis que je médite, il y a encore plus d'agitation, donc il y a un truc qui cloche. Et en fait, non, on va nous rassurer en nous disant, non, c'est une bonne expérience. Parce qu'on regarde l'esprit, on se rend compte que oui, on fait l'expérience que l'esprit part dans tous les sens. Donc on nous encourage à ce moment-là à continuer. À persévérer, que ce n'est pas une expérience négative, au contraire, première expérience de méditation, le placement, l'esprit part dans tous les sens. la méthode, donc là, nous invite à prendre un support de méditation. Un support, c'est-à-dire quelque chose sur lequel notre esprit va se poser. La respiration. On garde à l'esprit la respiration. On garde un œil sur la respiration. Moi, j'aime bien l'idée de garder un œil. C'est-à-dire, on n'est pas concentré sur la respiration, on garde un œil. On ne le perd pas de vue. Il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des sensations, il peut y avoir des perceptions. Je suis conscient de tout ce qui se passe, mais je garde un œil. Il y a toujours une partie de mon attention qui a toujours conscience de l'inspiration, l'expiration. Et en plus, pour intensifier la concentration, là pour le coup, on va compter les respirations. Et on va les compter l'ordre décroissant. Ça va impliquer plus de concentration. On part de 108 et puis on descend. Donc on porte notre esprit sur la respiration et à l'inspire on compte 108, expire 108. Inspire 107, expire 107. 106, 106. 105, 105. Et dès qu'on se trompe, dès qu'on perd le fil du décompte, on revient à 108. Alors bien, voilà, c'est d'où le principe de décompter plutôt que de compter, parce qu'on pourrait compter dans l'ordre croissant et puis penser à autre chose. Mais quand on fait par ordre décroissant, ça demande une certaine concentration, et on va tout de suite voir, en fait. Dès qu'on est distrait, on va tout de suite le savoir. On a perdu le fil du décompte. C'est l'intérêt de cette méditation, c'est que on reste pas trop longtemps distrait. On le voit tout de suite. Donc on ramène l'esprit. Si vous voulez, on le fait quelques minutes. Comme ça, vous allez vous familiariser avec cette méthode. Et puis on en parlera après. Donc voilà, on prend juste 2-3 minutes pour se détendre totalement. Le dos bien droit, en essayant, comme je disais, de trouver ce point d'équilibre où il n'y a pas besoin de faire un effort, ça tient tout seul. Si le bassin est correctement basculé, alors ça implique peut-être de s'avancer sur le coussin ou s'avancer sur le dossier sur l'assise, sur le siège, sur le devant du siège. Trouver le bon basculement du bassin. Et ce point d'équilibre. Et ensuite, on laisse les muscles se relâcher tranquillement. Et puis on porte une partie de notre attention sur la respiration, au niveau du bas-ventre, à l'endroit où on sent l'inspire, à l'endroit où on sent le ventre qui se soulève et qui s'affaisse. Ou alors si on préfère au niveau des narines aussi, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Comme on veut. Comme ça nous est le plus confortable. Et on laisse la respiration telle qu'elle. Qu'elle soit rapide ou lente, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et on commence le décompte à partir de 108. On pense à l'inspire 108, expire 108, inspire 107, expire 107, 106, 106, 105, 105, etc. Et si on perd le fil, on revient à 108. Sans se poser de questions. Est-ce que vous avez des difficultés avec cette méditation? Donc, la dernière fois, on était rendu à la deuxième étape du chemin de Chiné. Alors, quand on dit le sentier de Samatha, ou le sentier de Chiné, ou du calme mental, c'est la même chose. Hein. Samatha, c'est le terme sanskrit, Chiné, c'est le terme tibétain, et on le traduit par esprit stable. En fait, c'est vrai que j'aime pas trop dire... calme mental, parce que calme mental, ça induirait que il n'y ait plus de pensée, plus rien. En fait, on parle esprit stable. Esprit stable, ça veut dire, chiné, définition, c'est stable, qu'il y ait mouvement ou pas, ou absence de mouvement, qu'il y ait pensée ou absence de pensée. C'est ça la stabilité. Et donc, on a été à la deuxième étape du chemin. Où donc on dépasse, on arrive à rester un petit peu plus longtemps sur le support malgré l'agitation. Le pratiquant voit qu'ils peuvent quand même, il peut y avoir des pensées dans l'esprit, il peut y avoir de l'agitation, et pourtant on perd pas le fil du décompte. À la troisième étape, le signe qu'on est à la troisième étape, c'est que donc la troisième étape s'appelle le placement répété. À force de persévérer, on se rend compte que on peut, lorsqu'il y a une distraction, lorsque l'esprit perd le fil du décompte, on peut revenir à 108 très rapidement. On dit sans jugement, c'est ça le critère de la troisième étape, il n'y a pas de jugement par rapport au fait de « Ah, j'ai encore été distrait, pourquoi j'ai été distrait, etc. » Non, on revient, sans se poser de questions. C'est ici qu'on a la troisième étape. Alors, dans cette méthode-là, on ne fait pas de psychanalyse. On n'est pas en train d'analyser pourquoi il y a telle ou telle pensée ou telle ou telle image qui apparaît dans notre esprit. Quand on pratique la méditation, il y a des expériences qui s'élèvent. Parfois même des expériences, des souvenirs du passé. On ne sait pas pourquoi c'est là, pourquoi on pense à ça. Mais il est important dans ce contexte-là de ne pas se... poser de questions par rapport à ça, parce que ça ne pourrait qu'encourager la distraction. Donc à ce stade, tout simplement, quelle que soit l'expérience, si on perd le fil, on revient. Vous avez pu aussi peut-être constater que dans cette méthode-là, on peut avoir des pensées, des commentaires, sans perdre le fil du décompte. Donc ça montre bien que la pensée n'est pas un obstacle à la méditation. Et à la limite, c'est encore mieux. Si vous avez des pensées, des commentaires et que vous arrivez à rester sur le support, eh ben aucun problème. L'esprit intègre le mouvement. La stabilité intègre mouvement, pensée, donc c'est encore mieux. Et puis à la troisième étape, il y a un petit lapin qui apparaît sur le dos de l'éléphant. On en avait parlé déjà de ça ?
Oui,
on en a déjà parlé. Ah bah d'accord, ok. On était déjà d'accord. Alors je sais plus où c'était arrêté. Donc le lapin, c'est la torpeur subtile.
En fait, c'est partir avec le singe.
Comment ?
Je crois qu'on était fait les trois premiers étages.
D'accord. Ok. Donc rapidement, hein. Le lapin, c'est la torpeur subtile. La torpeur subtile, en fait, elle n'était pas là dans les étapes précédentes parce qu'on n'est pas capable de la voir, et c'est trop grossier. Torpeur subtile, c'est justement, on garde le support, on arrive à maintenir le décompte, mais en même temps, notre esprit, il reste très vaseux. Il y a quelque chose de pas net, c'est pas vif, c'est pas clair, ça manque de clarté. Ça, c'est le signe qu'il y a torpeur subtile. Donc l'antidote pour corriger ça, c'est d'insister sur le fait de redresser la posture et de garder les yeux bien ouverts, voire regarder à l'horizontale, voire vers le haut, voilà, pour éclaircir l'esprit. Aérer la pièce, enlever des couches de vêtements, ça voilà, c'est des petits outils. La quatrième étape, en fait, elle va marquer un cap. La quatrième étape, en fait, elle marque un cap parce que, à partir de ce stade-là, le pratiquant commence à faire des expériences de méditation et découvre que la méditation est quelque chose qui n'a rien de mystérieux. C'est que c'est très agréable, que c'est très plaisant, et on commence à se l'approprier. C'est plus quelque chose... voilà, on commence à savoir où est-ce qu'on nous emmène, parce qu'on goûte à ça, et donc du coup, on gagne en assurance, et ça devient moins à côté, je médite parce qu'on m'a dit de le faire, parce qu'il faut méditer. Non, comme on voit que c'est agréable, et puis on en comprend l'intérêt, du coup, on n'est plus en train de compter ses heures. À la limite, on est content de retrouver le coussin. Pourquoi ? Parce qu'on va faire plusieurs expériences. Il va y avoir les expériences de clarté. La clarté, c'est justement l'esprit commence à être stable et on est capable de tout voir sans se laisser perturber par ce qui se passe, qu'il y ait des sons, qu'il y ait des sensations, qu'il y ait des pensées. On voit tout ce qui se passe et on reste tranquille sur le coussin. Clarté, l'esprit est transparent. C'est symbolisé par l'éléphant est à moitié blanc, le singe aussi. Ça devient de plus en plus transparent. Expérience de clarté, expérience de félicité. La félicité, alors parfois c'est traduit par bonheur, mais précisément là, c'est pas le bonheur d'une situation. Le bonheur d'être sur la plage, le bonheur de prendre son pied, ou le bonheur de manger un bon plat. C'est le fait d'être bien et de ne pas avoir à courir après quelque chose pour être bien. En fait, on se sent bien de n'avoir à rien faire pour être bien. On est juste assis, là, et tout va bien. Il n'y a pas besoin de courir après quelque chose, il n'y a pas besoin de se protéger de quelque chose. Donc on goûte à ce qu'on appelle la félicité, un bonheur qui ne dépend pas de quelque chose. Et c'est très réjouissant comme situation. Très libérateur. Tiens, j'ai besoin de rien pour être bien. C'est quelque chose qui accompagne la stabilité, en fait. C'est inhérent à la stabilité. La félicité. Et il y a aussi des expériences d'absence de pensée. Je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut les rechercher, mais en fait, comme le flot de l'agitation, le flot des pensées ralentit, eh bien, on est capable de voir les intervalles entre chaque pensée. Donc, on est conscient qu'il y a des pensées et on est aussi conscient des intervalles entre chaque pensée. Voilà, donc c'est à partir de ce stade-là, en fait, que ça devient beaucoup plus facile. Parce que du coup, voilà, le pratiquant s'approprie la méditation. Ça ne devient pas quelque chose de mystérieux, au contraire, c'est quelque chose... En fait, on constate que c'est familier. On découvre pas quelque chose de nouveau, on met le doigt sur quelque chose de « Ah mais oui, je reconnais ça !» En fait, je connais ça, c'est familier. Simplement, avec la pratique, eh bien, on va pouvoir appeler le naturel, et même le maintenir. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Retrouver cet état naturel et pouvoir le maintenir. Parce qu'on en comprend l'intérêt. Et sur le dessin, vous voyez le brasier qui accompagne se fait de moins en moins intense. Le brasier, tout au long du chemin, il diminue jusqu'à disparaître. Il symbolise les efforts qu'on met dans la méditation. Au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que la stabilité s'est installée, et donc, du coup, il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Par exemple, si, on en avait parlé, je crois, quand vous comptez, si vous arrivez à 80-70, sans vous tromper, en fait, c'est que la stabilité s'est installée, et donc du coup, il n'y a plus besoin de compter. Ça devient superflu, il n'y a plus besoin d'avoir cette béquille. Donc on lâche cette béquille. On peut éventuellement rester simplement sur la respiration. Et puis plus la stabilité va s'installer, même se porter particulièrement sur la respiration sera superflu. On va justement enlever des efforts. Pour gagner en stabilité, eh ben on enlève qu'est-ce qui induit une provocation. On induit celui qui fait quelque chose pour être stable. Non, on s'installe dans la stabilité. Et donc, on se contente d'être de plus en plus naturel. et on va arriver à la cinquième et la sixième étape. Cinquième étape, elle s'appelle l'esprit dompté. Sixième étape, l'esprit pacifié. Là, l'esprit est très stable, donc on va gagner en clarté. À cette étape-là, on va s'efforcer de voir des choses de plus en plus subtiles. On va voir apparaître dans l'esprit des mouvements de plus en plus subtils. On va pouvoir les reconnaître. Parce que l'esprit devient affûté. Et ça va être intéressant au niveau de... ensuite, de la conduite. Comme on intègre la méditation à la conduite de tous les jours, parce que c'est tout le propos. La vraie méditation, c'est pas celle qu'on fait sur le coussin. La vraie méditation, c'est la post-méditation. C'est quand justement on intègre cette attention à ce qui se passe dans notre esprit, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, on rappelle souvent que le moment le plus important de la méditation, c'est le moment de se lever. C'est quand on a fini. Alors qu'au début, en fait, voilà, méditation. Bon, allez, je vais boucler ça. Puis une fois que c'est fait, c'est bon, j'ai fait mon quota. Salut, je passe à autre chose. Je tourne la page. Et c'est là, c'est précisément là que le travail commence. Au moment où je me lève, au moment où je sors de la pièce, au moment où je remets mes chaussures, parce que c'est ça qui va donner l'élan pour poursuivre la méditation avec de moins en moins d'efforts. L'idée, c'est de se familiariser. Si on ne fait pas cet exercice de familiarisation, à chaque fois qu'on revient sur le coussin, on repart de zéro. Alors que l'intérêt, c'est de maintenir. Effectivement, sur le coussin, conditions favorables, pas trop de distractions, posture idéale, favorable. Mais l'intérêt, c'est que je puisse l'emmener, cette méditation. Et le fait d'avoir l'esprit de plus en plus clair va nous permettre de voir mieux nos intentions. Les intentions qui sous-tendent chaque acte, chaque parole. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que la parole est le prolongement d'une pensée. Les actes sont le prolongement aussi d'une pensée. Tout est histoire d'intention. Quand on dit pensée, c'est intention. Derrière chaque parole, il y a une intention. Derrière chaque acte, il y a une intention. Et ce qu'on appelle le karma, c'est intention positive. Une intention positive donnera lieu à un acte positif qui aura pour fruit sukha, félicité, bonheur. Une intention négative conduira à un acte négatif qui aura pour fruit dukkha, contrariété, souffrance. D'où l'intérêt d'être à même de savoir ce qui se passe dans l'esprit. Les pensées, pas de problème. Les intentions en elles-mêmes, si on ne les suit pas, les pensées n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes. Mais par contre, le fait de réagir à une pensée de manière... c'est pas les pensées qui sont problématiques. Je me permets d'insister là-dessus. Faut beaucoup se décomplexer par rapport aux pensées, surtout quand on pratique la méditation. Qui est bonne pensée, mauvaise pensée, aucun problème. On est ok avec ça. Les pensées n'ont aucun pouvoir par elles-mêmes. Les résultats négatifs ou positifs, ça dépend de comment on saisit les pensées, comment on réagit aux pensées. Par exemple, si j'ai la pensée de... Souvent, Lama Tsutrim, il prend cet exemple-là. Si on a la pensée de trucider notre voisin ou notre colocataire parce qu'il fait trop de bruit, pas de problème. Si par contre, on se lève et qu'on va effectivement lui casser la figure, là, il y a problème. C'est pas tant la pensée le problème, c'est le rapport que j'entretiens avec ça. J'adhère à ça, c'est comment je saisis la pensée. Si on la laisse pour ce qu'elle est, une pensée, pas de problème. Qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle soit rouge, bleue, blanche, c'est une pensée. Ça n'a pas de substance. Mais Voilà, donc ça va être intéressant de voir plus clairement quelles sont nos intentions. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Qu'est-ce qui nous motive à dire telle chose? Qu'est-ce qui nous motive à faire telle chose? Est-ce qu'on est clair avec nos intentions? Si on est clair avec nos intentions, on aura une sérénité de l'âme, on pourrait dire, comme disent les philosophes. On aura la conscience tranquille. Il y a quelque chose de très juste là-dedans. C'est dans ce qu'on fait dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut nous reprocher, on peut faire des erreurs. Et on, bien sûr, si quelqu'un nous dit, bah voilà, là tu t'es mal comporté, là t'as déconné, etc. Bah, on peut se remettre en question, et c'est très bien. Mais ce qui va être important, c'est de, en tout cas, de voir que, bah oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est parce que je pensais bien faire. Au niveau de mes intentions, j'étais clean. On n'a jamais toutes les cartes en main. C'est jamais tout noir, tout blanc, quand on doit prendre une décision un peu délicate. Personne n'est totalement infaillible dans ses actes. Même le Bouddha, on pourrait dire, il n'était pas totalement infaillible dans ses actes. Mais par contre, au niveau de notre intention, ça, on peut avoir une totale maîtrise. On peut être totalement clair à qu'est-ce qui nous a poussé à faire tel ou tel acte. Et si on est totalement clair, même si on fait des erreurs, eh bien... on peut avoir la conscience tranquille d'avoir, bah oui, mais je pensais bien faire. J'avais ces cartes en main là, j'ai pu me tromper parce que je savais pas ça ou ceci, cela, mais l'esprit reste en paix parce qu'on est, on est clair avec ça. Dans la vie, on a des cas de conscience. Et dans le dharma, avoir des cas de conscience, c'est très bien. On aimerait bien ne pas en avoir, parce que cas de conscience, parfois, ça, c'est un peu, c'est pas forcément confortable, quoi. Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais pas comme ça? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Est-ce que je donne? Est-ce que je donne pas? On a toujours des cas de conscience, et puis ça nous met dans un inconfort. Et puis, dans le samsara, on aimerait bien conclure. Je dis toujours comme ça. Ou je donne ça, ou je donne pas. Ou voilà, quelqu'un qui demande, qui nous donne de la... qui nous demande, de, par exemple, une pièce de monnaie pour pouvoir manger un repas ce soir. Ça nous interpelle, quelqu'un qui nous demande dans la rue. Et puis on a toujours ce cas de conscience. Je donne, je donne pas. Et c'est inconfortable. On aimerait bien pouvoir conclure cette affaire une bonne fois pour toutes. Est-ce que je donne? Est-ce que je donne pas? Et il y en a qui concluent, qui disent, bah de toute façon, moi je donne pas. Voilà, je suis dans la rue, je donne pas. Ça entretient la mendicité. Enfin voilà, on se justifie d'avoir comme ça, de pouvoir avoir une ligne toute faite. Tout tracé, on n'a plus de cas de conscience, justement. On élimine, je donne pas. Ou alors, il y en a qui restent dans le... je donne 1 euro, systématiquement. Voilà, 1 euro, mais ça tient pas la route. Enfin, ça nous donne pas satisfaction, au bout du compte. Dans le dharma, on nous invite à garder nos cas de conscience. C'est important, les cas de conscience. À chaque situation, eh bien, on répond de manière... vierge, de sans référence par rapport au passé, et d'être à l'écoute en fait de nos intentions, de ce qui se passe dans notre esprit, élan de générosité, pas élan de générosité. Je suis en train de parler de d'autres choses, mais c'est pas grave, hein. puisque je suis lancé là-dessus. Là. Continue. Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Sur n'importe quoi?
J'ai une question sur le sentier, mais ça va pas sur le dessin. Est-ce que tu sais pourquoi le dernier éléphant repart dans le sens et qu'il y a un gros braquet derrière? Ça veut dire qu'il repart volontairement dans les difficultés.
Oui. Alors en fait, à la dernière étape, donc l'accomplissement de Shiné, c'est l'avant-dernière étape. En fait, on voit le personnage, il est assis sur l'éléphant, et puis, donc là, il n'a pas encore l'épée. Hein.
Non.
C'est la 9e étape de Shiné, on dit que Shiné est totalement parachevé. Parachevé, c'est-à-dire que on atteint ce qu'on appelle le samadhi, l'absorption méditative, une stabilité qui est absolument inébranlable. Elle est quand on dit inébranlable, c'est plus rien ne peut venir perturber cette stabilité. Le danger, c'est de s'attacher à cette expérience-là. On nous met en garde contre le fait de s'attacher aux expériences de samadhi ou de... Voilà. Parce que c'est très plaisant. Par contre, cette stabilité peut être très utile pour la sagesse, pour découvrir la sagesse. C'est ça la finalité de la stabilité méditative, c'est découvrir la sagesse. Et la sagesse, en fait, elle est donc symbolisée par ce personnage qui fait demi-tour, mais cette fois avec l'épée de la sagesse. Donc il est prêt à revenir dans le samsara, mais pour en découdre avec tous les problèmes. On va couper là-dedans. La sagesse, c'est la compréhension de ce qu'est l'esprit. On commence à avoir une compréhension intuitive de ce que nous sommes et de ce qu'est l'esprit. Et c'est ça la véritable libération. Dans le samadhi, on parle d'absorption, c'est-à-dire oui, on pourrait dire qu'on est quand même libéré de la souffrance dans une très large mesure, mais c'est pas encore l'éveil. Il n'y a pas encore une compréhension totale de ce que nous sommes, de ce qu'est le phénomène, et donc du coup il n'y a pas la capacité à aider les autres. Il n'y a pas l'éveil de toutes les qualités de l'esprit. Et c'est tout le propos hein, de développer la stabilité. C'est de réaliser la nature de ce que nous sommes, l'esprit. Quand on parle d'esprit, donc c'est un mot, hein, c'est un mot qui désigne le fait de faire des expériences. Esprit, expérimenté. Donc l'esprit, ça ne désigne pas quelque chose, ça désigne une fonction. Faire des expériences. Donc c'est difficile d'en parler, hein. C'est difficile de parler de l'esprit, mais pourtant, on peut en parler en termes d'expérience, parce qu'on expérimente tous l'esprit. C'est pas quelque chose, et pourtant, on peut pas nier qu'il y a expérience. Si on devait parler de l'esprit, on dirait, bah, par exemple, on peut faire des expériences avec ce corps. Ce corps fait partie de l'esprit, quelque part. Il est... très lié à l'esprit. On peut faire des expériences à travers les cinq sens du corps, faire l'expérience de voir, faire l'expérience d'entendre, faire l'expérience de sentir, et en même temps, donc quelqu'un pourrait dire, donc l'esprit c'est le corps, c'est le corps, mais c'est plus que ça. Parce que l'esprit peut faire des expériences au-delà de ce corps. Par exemple, la conscience mentale. Conscience mentale, on peut faire des expériences, on peut se projeter dans le passé. Voilà, on peut avoir des pensées. C'est pas vraiment ce qui se passe, c'est pas vraiment ce qui est en contact avec les cinq sens dans le présent, et pourtant on vit quand même une expérience. Une expérience, un souvenir du passé, on peut même se projeter dans le futur. C'est pas ce qui est en train de se passer, mais n'empêche que je fais quand même une expérience. Quand on rêve, quand l'esprit s'endort, pareil, on n'est plus en contact avec l'environnement biologique, organique. L'esprit, pas de problème. Il se fabrique un environnement mental. Il se fabrique un environnement, il se fabrique même un corps pour interagir avec son environnement, un corps de rêve. Et là encore, expérience positive, expérience négative, expérience plaisante, expérience déplaisante. Donc il est pas limité à ce corps, l'esprit. Il peut faire beaucoup plus que ça. Et puis même les bouddhistes affirment qu'il y a une expérience post-mortem. Qu'est-ce que ça veut dire ? La conscience psychique, enfin, il y a une expérience de conscience qui survit au corps, post-mortem. Donc, du point de vue de l'esprit, que les choses soient réelles ou pas, ben en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que l'esprit, il expérimente quand même. Même si c'est pas là, si par exemple je pense à Tokyo, c'est une pensée, je pense à voilà, une vacance à Tokyo, je suis à Tokyo, c'est pas vraiment là, mais mon esprit s'en fout, il fait quand même l'expérience, il n'est pas du tout embêté par le fait que ce soit réel par réel. On peut pas lui donner de couleur à l'esprit, on peut pas lui donner de taille. On peut pas lui donner de localisation, parce qu'on pourrait dire, bah voilà, l'esprit, c'est le corps, mais en fait, en même temps, l'expérience, elle n'est pas circonscrite dans ce corps. Par exemple, si j'entends un son à quelques mètres, voilà, dans l'autre pièce d'à côté, bah mon esprit, il peut se projeter juste là-bas. Mon esprit, il peut avoir conscience de l'ensemble de la pièce, et puis même plus loin, il peut s'élargir. Donc il est... Et on ne peut pas lui donner de forme. Il change au gré des circonstances, des situations. Il n'est pas quelque chose. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quand même expérience. Et c'est... Et il est dit que si on comprend totalement ce que nous sommes, c'est-à-dire cet esprit, si on comprend totalement l'essence de cet esprit, la nature de cet esprit, alors on n'aura plus rien à craindre. On n'aura plus rien, non seulement on n'aura plus rien à craindre, mais notre esprit sera totalement en paix, totalement libre de tout ce qui peut émerger dans cet esprit, parce qu'on voilà, on réalisera l'essence à la fois vide de cet esprit et à la fois claire. C'est-à-dire, vide, ça ne veut pas dire néant. Parce qu'il y a expérience. Mais comme l'esprit n'est pas quelque chose, il ne peut pas être soumis à la genèse ou à la destruction. Il peut pas, il y a pas, il n'est pas soumis à la naissance, il n'est pas soumis à la mort. Il n'y a rien qui puisse le détruire, il n'y a rien qui puisse le souiller. Et donc, on va s'efforcer de le comprendre intellectuellement, voilà, avec les enseignements, mais le propos de la méditation, c'est d'arriver à le goûter, de toucher à ça, de toucher à ce que nous sommes en essence. Et c'est le but de la sagesse. C'est le but de... voilà. Ça, je crois que vous avez eu votre dose là. On va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, bah voilà. On y reviendra de toute façon là-dessus. Là, je me contente juste d'en parler, même si c'est très intellectuel tout ça, même si c'est des notions, voilà, dès qu'on touche à l'esprit, bon, c'est très conceptuel, c'est très intellectuel, mais c'est quand même pour qu'on ait une sorte de ligne directrice, de savoir où est-ce que nous emmène le dharma, à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert la méditation. On fait la dédicace ? Par cette vertu, puisse-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci.